se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est très, très, très heureux d'être avec vous jusqu'à 15h avec Thibaut Texer, avec Pierre-Édouard Magnan, Fatima Benomar et Fred Hermel avec vous, bien sûr, au 32-16 pour répondre à cette question. Famille nombreuse, est-ce que c'est un enfer ou le paradis, tout simplement? On vous attend au 32-16 et sur l'application RMC. 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous avec l'histoire d'un couple en galère parce que son wedding planner a disparu avant son mariage. Bah, c'est embêtant, mais surtout ce wedding planner n'a rien fait et a disparu avec la compte de 3 000 euros. Donc Amélie Rosic tentera d'aider ce couple. Il aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui et puis un beau cadeau à gagner sur RMC.
RMC vous envoie la Coupe du Monde pour le match Tunisie-France le 30 novembre prochain. Transport, hébergement et vos places pour le match, tout est à nos frais. Pour remporter les places pour ce match, inscrivez-vous maintenant en envoyant RMC au 732-16. RMC au 732-16, le gagnant sera connu vendredi, il sera à l'antenne vendredi.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite aux chiffres du jour. 1 700 000, c'est le nombre de familles nombreuses en France. Une famille nombreuse, c'est une famille avec 3 enfants ou plus. Ce chiffre ne varie pas depuis 10 ans, Thibault. Mais alors, qui sont ces familles nombreuses?
Alors que l'indice de fécondité moyen en France est tombé à 1,84 enfants par femme en 2020, certains couples ont fait un choix différent. 21% des familles françaises en 2021 sont concernées, selon une étude de l'INSEE. L'Institut qualifie une famille nombreuse à partir de 3 enfants, ce qui équivaut à une famille sur 5 en France, soit l'un des taux les plus élevés en Europe. Pour expliquer ce chiffre stable depuis 10 ans, il y a de nombreuses familles recomposées qui ne cessent de grimper et dont la part est à ce jour la plus grande sur le territoire. Pour les très grandes familles à partir de 4 enfants, leur nombre a baissé. En 20 ans, il est passé de 384 000 familles à 293 000. Il faut dire que s'il existe des aides dans le transport, dans le soutien scolaire, dans les vacances ou encore les allocations familiales, le coût financier est important. D'après l'INSEE, 73% des familles nombreuses avouent avoir du mal à boucler leur fin de mois. Un couple sur 3 ayant plus de 4 enfants vit même sous le seuil de pauvreté et 6% vivent dans des logements surpeuplés. Enfin, parmi ces familles, 62% estiment avoir une image négative auprès de la société. Ce n'est pas le cas de Karine et Patrice ou encore Jessica et Dominique. Ce couple du Nord a eu 13 enfants âgés de 9 mois à 23 ans. On est loin tout de même du record mondial. Un couple de Britanniques qui vit avec 22 enfants.
22 enfants.
22 enfants.
Bah vous pouvez faire un match de foot dans la maison.
Elle a commencé à 14 ans, elle a 44 ans.
Ah oui, oui quand même. Famille nombreuse, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? C'est la question qu'on vous pose dans Estelle Midi. Et je vais commencer avec vous, Pierre-Édouard Magnan. Vous êtes celui qui a le plus une famille nombreuse autour de cette table.
Oui, alors il y a la recomposition. Le mot n'est pas toujours très... Les familles recomposées, le mot n'est pas très heureux, mais il n'y en a pas d'autres. Et qui fait qu'en fait, du coup, on s'est retrouvés par les hasards de la vie et les choix de nos parents à 6. Une sœur qui a toutes les chances du monde, puisqu'elle a 5 frères, donc inutile de vous dire que, voilà, en plus j'aime bien dire, parce que il se trouve que cette sœur, donc, qui est ma sœur, mais elle a 4 jours de moins que moi, c'est les hasards de la vie, donc j'adore dire que ma sœur a 4 jours de moins que moi, ce qui en général fait toujours un temps d'arrêt auprès des gens.
Oui, c'est
évidemment, c'est pas ma sœur biologique, c'est pour ça que ma sœur peut avoir 4 jours de moins que moi, mais ça fait toujours un... Donc, voilà, après, moi, c'est plutôt le bon côté, moi j'ai découvert à 13 ans, voilà, bon, mes parents sont séparés, c'est une période qui forcément est toujours un peu compliquée, mais finalement, moi, ça m'a permis aussi, voilà, d'avoir... Moi, je l'ai vécu comme un ajout, en fait. Plus de frères, plus de famille, des parents supplémentaires, des grands-parents supplémentaires. Aujourd'hui, des neveux et des nièces, en nombre important. Et donc...
Mais vous aimez les réunions familiales à
mais nous, ça se passe. Alors, si je voulais faire un mot, je vous dirais que la famille nombreuse, en fait, c'est un paradis pavé de bonnes intentions. Vous aurez compris, évidemment, l'allusion. Mais oui, ça se passe bien. Il y a au moins... Alors, comme on est de plus en plus nombreux, c'est matériellement des fois un peu compliqué de trouver une date commune, mais il y a encore au moins une ou deux fois dans l'année, on se réunit tous. On part en vacances ensemble, pas forcément tous ensemble, mais il y a régulièrement des frères et sœurs qui partent en vacances effectivement ensemble. Et oui, c'est pas pour dire que c'est le pays des bisounours, hein, mais c'est surtout évident pour les parents que des fois c'est un peu compliqué à gérer, parce que finalement, Je crois pas qu'entre nous on se soit, alors, un de mes frères, ça a pu être un peu plus compliqué à certaines périodes, mais globalement on s'est assez peu engueulé entre nous. Par contre, comme il peut toujours y avoir des rivalités entre frères et sœurs, c'est plutôt les parents qui se retrouvent à les gérer. Donc c'est peut-être pour les parents. Alors, après, tous grandis, hein. Je veux dire le plus jeune est père de deux enfants, hein. Donc voilà, on est tous devenus adultes. Mais non, moi je l'ai plutôt bien vécu. Après, je l'ai vécu, j'avais déjà 13 ans. Alors peut-être que j'y suis rentré finalement après coup. Parce que quand on les voit naître, je pense, je sais pas si c'est une famille anglaise, oui, des 22 enfants qu'on voit en photo, mais.
Celui qu'on a vu naître 21 après lui, c'était.
21 après lui, quel poids et quelle responsabilité aussi, parce que quand on se genre de famille, quand on est l'aîné.
Elle a passé sa vie enceinte.
Et la mère, etc.
Bah, enfin, voilà. Sa vie, elle a que 44 ans.
Bah oui, mais enfin, de 14, pour en faire 22, de 14 à 44 ans. Elle était enceinte tout le temps, en fait, la pauvre.
Bon, écoutez, elle a pu avoir des triplés, enfin, on sait rien.
Pardonnez-moi de penser un peu à la mère. Parce que je ne suis qu'un homme.
Enfin, elle l'a choisi.
Mais elle l'a choisi. Mais je pense que
c'est un choix.
Porter un enfant, c'est lourd, non? Physiquement, non? Et puis l'accouchement, tout ça, c'est. Oui, enfin, donc 22,
savez,
c'est.
Vous savez, beaucoup de femmes ont eu des enfants, elles sont sorties.
Hum. Oui,
voyez,
22.
C'est un truc.
T'en connais beaucoup.
Bah, 22, non, c'est vrai que j'en connais pas.
Sur 30 ans.
Et est-ce que Fatima, ça peut encore être un rêve aujourd'hui d'avoir une famille nombreuse? On voit beaucoup de jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants. On a l'impression effectivement que on est plus dans une société aujourd'hui où il faut en faire un ou deux et pas plus.
Ça dépend si c'est pour des raisons, on va dire, économiques. Ça veut dire on a envie d'avoir des enfants, mais on se dit qu'on ne pourra pas les assumer. On a aussi peur de les laisser dans un monde qui est anxiogène. Et je connais des personnes qui sont habitées par ce genre d'inquiétude. Et puis au nom de convictions aussi d'ordre écologique ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour répondre à la question, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis, ça peut être aussi bien l'enfer ou le paradis selon, encore une fois, sa situation matérielle, parce que c'est ce que nous dit en vérité ce rapport. C'est-à-dire que quand on parle de prix du logement, de surpopulation, c'est-à-dire de trop d'enfants par nombre de pièces, très clairement, on n'est pas en train de parler de la famille Fillon et de leurs 5 enfants qui vivent dans un château, quoi. On est encore une fois.
Ils ont le droit d'avoir 5 enfants quand même.
Non, ce que je dis, c'est que c'est le paradis ou l'enfer selon, en fait, la manière dont on est né, parce que je pense que la plupart des inégalités, une appartenance à une classe sociale qui est originelle, c'est-à-dire qu'on est né dans des classes sociales inférieures. On a, c'est ce que nous dit aussi le rapport, moins de diplômes, donc on aura moins de salaires, etc. Et en plus, il faut savoir que dans un couple, plus on a d'enfants, ça a très très peu d'impact sur la progression de carrière des hommes. Mais par contre, ça a un impact vraiment sur l'emploi des femmes. Plus on a des enfants, et quand il y a séparation,
mais après c'est un choix. C'est-à-dire que vous pouvez, il y a des gens qui ont envie d'avoir une famille nombreuse, c'est un choix, qui ont envie d'avoir 4-5 enfants.
Voilà. Mais en tout cas, la gestion de
ce choix-là, il appartient à chacun.
Oui, bien sûr. Mais la gestion de ces tâches va faire que dans une société inégalitaire, ça ne contrecarre pas la progression de carrière des hommes. Par contre, ce sont les femmes qui, du coup,
se disent
qu'elles vont avoir moins. Enfin, elles vont.
Oui, mais elles le savent. Donc, elles le font. Alors,
elles le savent parce qu'il y a un rapport de force.
Elles le font en connaissance de cause.
Il y a peut-être des femmes qui veulent avoir beaucoup d'enfants et qui veulent rester à la maison pour éduquer leurs enfants. Il y a des femmes qui veulent éduquer leurs enfants.
La prochaine étape, ce que je voulais dire, c'est que quand il y a séparation, parmi les familles monoparentales et très souvent avec des mères à leur tête, ce sont parmi les familles les plus pauvres parce qu'il y avait, dès le départ, cette distribution inégalitaire des tâches et de l'investissement des parents.
Frère
Hermès, oui, grâce à Dieu.
Vous n'avez qu'une sœur, vous.
Je n'ai qu'une sœur, et c'est sûrement la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Moi, j'imagine pas ma vie sans l'existence de ma sœur, quoi. Enfin, et donc, je comprends qu'on ait envie d'avoir plein de frères et sœurs.
Vous auriez aimé être dans une famille nombreuse, vous?
Je sais pas, mais en tout cas, ma sœur, j'adore, ma petite sœur. Bon, elle va avoir 50 ans, mais ça restera toujours ma petite sœur. Et moi, je suis ravi. Mais les femmes choisissent aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à la République, il y a ce qu'on appelle la contraception. Et donc, aujourd'hui, le contrôle des naissances, il peut se faire. Donc, une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, peut
mais
ne pas avoir d'enfant.
Tâches qui sont liées.
Oui, bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, cette dame qui était enceinte 22 fois, je pense que sa vie était un peu compliquée. Donc, on peut choisir.
Mais arrêtez de prendre cet exemple. C'est une dans le monde.
D'accord. Bon, alors moi, dans mon village, moi, j'avais des copains, il y avait une famille avec 13 enfants et une famille avec 10 enfants. Un village de 650 habitants. Donc, ce qui est dans les années 70 était encore assez courant.
Mais il permettait à l'école de rester ouverte.
Bah, exactement, non. Puis on a. Voilà, et puis c'est. J'explique. J'ai eu plein de copains avec eux, ils étaient très bien. La vie était organisée pour que ça aille. Parce que. Et c'était pas des gens très riches, mais qui savaient s'organiser pour avoir des enfants.
Il faut ne pas être très riche et avoir envie d'avoir beaucoup d'enfants.
Mais après, il faut pas faire peser sur la société son envie d'avoir des enfants. On a parlé l'autre jour de l'exemple de cette famille avec les deux parents au RSA et qui avait plein d'enfants et qui avait touché 6 000 euros d'aide au mois d'août. Donc, à partir du moment où donc c'est un choix. Et j'en parlais l'autre jour sur ces familles de ces amis de mon ami Olivier. Le papa travaillait, la maman travaillait, et il y avait 9 enfants. Et ça allait très bien.
Fatima, vous voulez rajouter?
Oui, donc le choix, c'est celui d'avoir des enfants. Moi, je parle de la répercussion que ça a sur l'emploi des femmes, c'est-à-dire des tâches qui sont liées. Parce que, par exemple, tu citais le fait que tu es tout le temps enceinte, mais il y a une autre chose à citer, c'est que à chaque nouvel enfant, il y a de nouvelles tâches dans des sociétés où ces tâches ne sont pas, enfin, ça n'impacte pas les carrières des pères qui pourtant sont l'un des parents de la même manière que celle des mères, mais elles sont bien obligées en fait, et là ce n'est plus de l'ordre du choix, de revoir à la baisse par exemple, de dire à leur employeur, je veux bien te payer un peu moins cher si je peux rentrer plus tôt chez moi pour s'occuper des enfants. Et ça, ça crée des inégalités qui vont se creuser avec les années, et s'il y a séparation, elles en payent le prix cher.
Alors on est avec Kader qui nous a appelé de Nancy et qui est chargé de mission dans un HLM. Bonjour Kader.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Kader.
Je me mets avec mon téléphone. Bonjour.
Oui.
Oui, c'est pas tous les jours facile quand on a 4 enfants, mais bon, quand on voit comment on était nous avant, parce que je suis issu d'une famille de 10 enfants, c'était 5 garçons, 5 filles, donc on avait déjà la parité à l'époque. Et le problème, c'est qu'on a affaire maintenant à des enfants. Je pense qu'on les a couvés ou trop couvés, donc on est constamment à les déposer, à les redéposer, à les accompagner, alors qu'à l'époque on nous larguait, on se démerdait, quoi.
C'est vrai.
Là maintenant, j'ai l'impression qu'il nous faudrait un gyrophare sur la voiture, quoi. C'est dépose, redépose, on ramène, on revient, et puis on a notre vie à côté, hein. Donc entre la vie professionnelle et la vie familiale, c'est une vraie course chronométrée, calibrée. Où il faut rien oublier, parce que si on oublie quelque chose, ça fait, c'est un effet de domino de galère. Voilà. Mais bon.
C'est marrant, je sens que c'est l'enfer pour vous, la famille nombreuse.
Non, parce que le bonheur des enfants, c'est une réalité, et on oublie toutes ces galères quand on a le petit bisou du matin, le bisou du soir. Et
bon, oui, vous en avez 4 en plus.
Au lit, je peux vous dire qu'on est content quand même. Hein, quand ils sont tous couchés, on a l'impression qu'on a une nouvelle vie qui arrive.
Oui, je connais ça, même avec 2. Ouais, voilà. Mais Kader, vous dites que vous avez vécu dans une famille nombreuse, vous étiez 10 enfants, mais moi je me suis toujours demandé, mais comment vous faites pour la bouffe, quoi? Déjà quand il y en a deux, parfois
bouffe,
c'est compliqué. Pour le peu qu'il y en a un qui soit vegan et l'autre, non, mais enfin, c'est pas jouable.
Après, stigmatisation des grévistes, maintenant celle des véganes.
C'est même pas une histoire de vegan, c'est que à l'époque, on mangeait, si on mangeait pas, ben on loupait un repas. Il y avait pas, comment dirais-je, de chouchoutage à l'époque. C'était tout dans le, voilà. Et maintenant, les gamins, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas les légumes, j'aime pas. On a l'impression d'un self-service où il faudrait quasi calibrer chaque repas de chaque enfant. Et je pense qu'on a été trop gentil avec eux aussi. Et puis il y a les histoires à l'époque, les fast-foods, c'était pas, j'ai pas 100 ans, mais à l'époque les fast-foods c'était une fois de temps en temps. Ils ont tellement goûté au fast-food que ça, pour eux, c'est la facilité. Moi, j'ai envie de me manger une pizza rapide. On connaissait pas les pizzas surgelées à l'époque. Moi, j'en ai pas mangé avec mes parents. Pourtant, j'ai 48 ans. J'en mangeais pas de pizza surgelée à l'époque. On connaissait pas ça.
Non, mais ce que vous dites, en fait, c'est que voilà, c'est une galère en organisation. Et c'est vrai que, effectivement, les enfants, quand avant, il y a quelques années, on en avait beaucoup. Enfin, voilà, on leur laissait plus de responsabilités. Et c'est vrai que maintenant, comme on les chouchoute tous, bien sûr, ça fait plus de boulot à la maison. Merci, Kader, en tout cas, d'avoir été avec nous. Kader était un peu mitigé, hein, sur la famille nombreuse. On a Stéphane, alors lui il n'est pas mitigé du tout, et il nous appelle de Carcassonne. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et pour vous, la famille nombreuse, Stéphane, on va pas se mentir, c'est l'enfer.
Ouais, un petit peu, oui.
Alors pourquoi?
Oui. Ben, en fait, je suis voisin, moi, d'une famille nombreuse. Hein. Bon, j'ai des enfants, tout s'est très bien passé, mais je suis voisin très très proche d'une famille nombreuse. Et donc là c'est clairement l'enfer, en fait. Surtout,
et ils sont combien?
Alors, si mon recensement vu de ma fenêtre est exact, il y a 8 enfants.
Ah bon, d'accord.
8 poules, un coq, 5 chats. Bon, j'en passe, quoi, voilà.
Et là, oui, là, c'est une ferme pédagogique, quoi.
Ouais, c'est ça. Sauf que là, on est quand même en lotissement, hein, voilà. On n'est pas à la campagne au fin fond de voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, ouais, parce qu'il y a le bruit. Alors bon, là en plus il y a.
Ce qui vous gêne, c'est les enfants des autres. Enfin, c'est les familles nombreuses des autres, quoi.
Ah oui. Ah. En fait, c'est-à-dire dès l'instant où on s'en occupe pas trop, parce que là, moi, c'est un petit peu ça. Si vous voulez, bon, dans le sud, à Carcassonne, il fait beau. On a eu un très bel été. Espérer peut-être faire une sieste l'après-midi, un samedi ou un dimanche, il faut pas y compter, quoi. Et ils sont dehors du matin 8h au soir 22h et ils hurlent. C'est la folie. C'est incroyable, c'est une
situation à côté de la maison. Oui, mais ça, c'est pas le problème des familles nombreuses, c'est le problème de l'éducation des enfants, ça n'a rien à voir. Vous avez combien d'enfants, vous, Stéphane?
Alors, moi, j'ai, biologiquement une fille et en réalité trois enfants. Voilà.
Ah bah donc vous êtes famille nombreuse, Stéphane. Ah ben, mais la vôtre, vous gêne moins, j'ai l'impression.
Ah ben la mienne, moi, si vous voulez, dès que j'ai eu les enfants, bon, ça fait un petit moment maintenant parce qu'ils sont grands, mais bon, quand ils jouaient dehors ou même quand il y avait des copains, etc., au bout d'un moment, j'intervenais en disant attention, on a des voisins, vous êtes gentils, mais vous baissez le son, et puis voilà. Et puis bon, oui, effectivement, c'est un problème d'éducation. Ah. Mais j'entends ça. Mais
voilà. Ben merci beaucoup, en tout cas Stéphane d'avoir été avec nous. Fatima Benoir, est-ce qu'on peut éduquer aussi bien 5 enfants justement que 1?
Non, je pense qu'on est facilement débordé. Enfin, je me mets à la place. Moi, je n'ai pas eu d'enfant, mais je me mets à la place d'une personne qui doit, on va dire, manager 2 ou 3 enfants. C'est déjà assez compliqué. Il est clair qu'à un moment, la même personne adulte qui est débordée par plusieurs enfants, j'imagine bien que ça arrive à un moment au bout de ses forces et de ses énergies. Et je lui donne toute ma solidarité, mon empathie.
Oui, c'est ça. On a Franck qui nous appelle de la Ferté-Massé dans l'Orne. Bonjour Franck.
Bonjour à tous.
Bonjour. Et Franck qui est assistant familial. Paradis ou enfer, les familles nombreuses, Franck?
Non, c'est le paradis. C'est le paradis. J'entendais l'auditeur juste avant. Quelle tristesse d'avoir ce ressenti-là des enfants, même des enfants des autres. C'est l'enfer, c'est plutôt le regard des autres sur nous, en fait.
C'est-à-dire, vous avez combien d'enfants, Franck?
Alors moi, j'en ai 4 et l'aide sociale à l'enfance m'en confie un en permanence. Donc j'ai
4
enfants à la maison et parfois 6. Samedi soir, nous avons fait une sortie au restaurant avec des amis et collègues. On avait une table de 16 enfants.
Et, 16 enfants?
Il y avait 16 enfants à table avec nous. Ouais, 16 enfants à table avec nous et pas de bruit. Il y avait une petite fille toute seule à la table d'à côté qui a renversé une bouteille, qui a cassé un verre, qui a pleuré. Non, nous, il y avait du bruit de discussion, il y avait de l'animation de rigolade, mais chaque enfant tenait sa place et puis ça se passait.
Mais ils vous ont accepté au restaurant avec une table de 16 enfants?
On avait réservé.
Ah oui, voilà. Sans dire que c'est les enfants, j'imagine.
Bien sûr que si. Ah mais il a fait son beurre. Vous imaginez la note qu'on a payée. Donc,
ouais, c'est vrai. Coup,
il fait son beurre. En contradiction avec un restaurant où on est allé cet été à Saint-Malo, qui nous a refusé directement en nous voyant arriver. Donc là, j'étais avec 4 enfants. Et la dame est venue à notre rencontre en disant, c'est à vous tous ces enfants. Donc, ils étaient 4. Hein, et je dis oui. Et elle nous a dit, bah oui, mais nous, les enfants, c'est pas trop notre truc. Donc, on allait manger en terrasse juste en face, du coup.
Mais non.
Et oui, voilà, ouais. Donc, elle avait personne hein, en même temps. Hein. C'était en plein été, elle avait très peu de monde. Donc, on nous a peut-être sauvé la vie.
Mais peut-être. Et justement, le regard de la société, quand vous débarquez quelque part avec 5 enfants, il est plutôt bienveillant ou il est plutôt critique?
Alors, chez les personnes, j'ai le même âge que vous, chez les personnes
de votre
âge, je le trouve, oui, très jeune, je le trouve plutôt critique, chez les anciens, plutôt bienveillant, parce que ça devait correspondre à une époque d'avoir plus d'enfants. Et aujourd'hui, vous aviez, il y a quelques jours, 10, 15 jours, une auditrice qui se plaignait avec 4 enfants d'avoir eu ses enfants de compter au magasin. C'est
ouais,
très
vrai.
Souvent, hein. C'est très souvent ce genre de choses. Les gens s'autorisent ce genre de choses. Alors ça fait bizarre, ça fait pas de la bienveillance en tout cas. Et ça, les enfants le ressentent et c'est ça le plus triste.
Et Franck, ça demande une organisation particulière d'avoir 5 enfants?
Ouais, c'est plus que particulier, ça réorganise toute une vie. C'est-à-dire que bah, pour rassurer Fatima, du coup, c'est moi qui ai pris le congé parental à la naissance de mes jumeaux. Et parce que ma femme est passionnée de son métier et que le mien me passionnait un peu moins à l'époque. Mm-hmm. Hein, j'étais pas encore assistant familial. Et c'est justement mes 4 enfants qui m'ont amené à accueillir encore plus d'enfants à la maison, du coup, puisque ça me permet de travailler à domicile. Donc ça réorganise absolument tout, oui.
Vous avez acheté un minibus?
Alors j'ai eu un minibus, mais non, depuis que je suis assistant familial, j'ai 2 monospaces. C'était la seule angoisse que j'avais dans ma vie, c'était de rouler en monospace et j'en ai 2 maintenant.
Et le labrador.
Ah oui, on évolue. Merci beaucoup Franck, en tout cas, d'avoir été avec nous. Voilà, Franck, heureux papa de 5 enfants. On va prendre Marc qui nous appelle de Paris, qui est responsable commercial. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez combien d'enfants Marc?
Alors on en a 7 avec mon épouse.
D'accord.
Ouais. Sept enfants, donc 5 garçons et 2 filles, donc l'aîné à 22 ans.
D'accord.
Et le dernier, bientôt 3. On dit le dernier parce que jusqu'à présent, on disait le plus jeune parce qu'on aspirait toujours d'en avoir d'autres. Mais là, on parle du dernier parce que, bon, voilà, ça y est, on a
c'est fini là.
Faire, quoi. Ouais. Et puis pour la petite anecdote, on a aussi deux petits enfants. Vous voyez, donc on est des jeunes grands-parents.
Mais alors, Marc, vous avez quel âge, Marc?
Moi, j'ai 46 ans et mon épouse 45.
Et est-ce que c'était d'ailleurs, votre souhait à tous les deux?
Je passe un grand bonjour parce qu'elle est professeure des écoles. Ah. Et donc, je pense qu'à cette heure-ci, elle doit vous écouter.
Oui, alors, on embrasse votre épouse. Marc, mais est-ce que c'était un choix de votre part et de votre épouse au départ quand vous êtes rencontrés d'avoir cet enfant, ou est-ce que c'est venu, je veux dire, petit à petit? Vous en avez fait un, puis mettons c'était un garçon, vous dites bah, faudrait que j'ai une fille, et puis après, vous avez eu cet enfant, ou est-ce que vous avez toujours voulu avoir une famille nombreuse?
Non, que ce soit mon épouse ou moi-même, on est issus des familles, on va dire, moyennement nombreuses, hein. Moi, nous étions trois garçons à la maison, mon épouse quatre enfants, donc
ça reste une famille nombreuse.
Assez nombreuse, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment une volonté commune dès le début d'avoir une grande famille, d'avoir beaucoup d'enfants, ouais, absolument. Et c'est que du bonheur. Alors, ce serait mentir que de vous dire que tout est rose.
Oui, voilà.
Il y a des moments difficiles, il y a des moments de stress, des moments de fatigue. Mais à côté de ça, il y a tellement de moments magnifiques et émouvants entre famille, dans la famille, entre frères et sœurs, que voilà, on est très très heureux de les avoir parmi nous et très heureux du chemin parcouru.
Ouais, mais Marc, vous habitez Paris, et je me dis quand même, déjà quand on est seul à Paris, c'est de prendre les transports en commun, c'est une catastrophe. Mais je veux dire, en termes d'organisation, je sais pas comment vous faites, mais bravo, mais chapeau, mais.
Ouais, c'est sur le point le plus délicat. Je dirais que dans une journée, il y a deux moments vraiment très très importants. C'est le lever. Et puis le coucher, enfin au moment des devoirs, des repas, c'est les deux moments les grands, les deux moments les plus difficiles. Là, ça demande effectivement une grosse organisation. Ça demande que tout soit millimétré. Et puis dès qu'il y a un grain de sable qui rentre un petit peu dans la machine, ça devient un peu compliqué. Mais les choses sont bien réparties, donc.
Mais vous n'êtes pas épuisé le soir, Marc, parce que non, mais enfin, je sais pas, j'ai quand même autour de moi beaucoup de gens qui n'ont qu'un ou deux enfants et qui sont quand même épuisés. Vous voyez, vous en avez sept et vous m'avez l'air extrêmement serein. Donc, soit vous prenez de la drogue, ce qui est possible, soit je ne comprends pas comment vous faites pour être d'une sérénité pareille, Marc. Mais enfin, vraiment, mais bravo.
Il a l'air un peu crevé quand même quand il parle.
Oui, c'est vrai qu'il a l'air un peu fatigué.
Non,
il est sorti de la sieste.
Je sors d'une petite gastro, donc je suis un petit peu.
Ah mince, en plus. Ah oui, là, c'est.
Mais sinon, en fait.
J'espère que tout le monde l'a pas eu en même temps chez vous.
Il y a deux enfants qui l'ont eu. Ils sont sans compromis. Écoutez, en fait, au niveau d'organisation, c'est vrai que lorsqu'il y a très peu d'écart, enfin nous, il y a à peu près 2-3 ans d'écart entre chaque enfant. Mmh. Donc c'est vrai que les grands aident un peu les plus petits, les parents aident les grands. Enfin voilà, on va dire que c'est ce qui s'apparente à une famille. Hein. Effectivement, c'est les interactions qu'il y a entre les frères et sœurs, entre les parents et les enfants avec les petits, avec les grands. C'est ce qui symbolise vraiment la famille, au vrai sens du terme. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup aidé par les grands. Et puis, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment passer un peu de temps avec chaque enfant. Voilà, je pense que si on arrive à passer 5-10 minutes avec chaque enfant le soir, par rapport à son programme de la journée, par rapport à ce qu'il a fait, voilà, je pense que c'est largement suffisant, plutôt du qualitatif que du quantitatif, quoi. Et c'est comme ça qu'on voit les choses.
Qu'on réussit. En tout cas, bravo, Marc, félicitations à sept enfants. Pour tout Marc et son épouse.
On revient à mon épouse.
Eh ben, écoutez, elle nous écoute en plus, donc on l'embrasse, et puis surtout, voilà, on est très admiratif devant Marc et son épouse. On va terminer avec Guillaume qui nous appelle du Calvados. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et vous Guillaume, vous êtes un petit joueur Guillaume, vous n'avez que 5 enfants.
Ah oui, par rapport au précédent intervenant, ouais. Oui, j'en ai que 5. Et j'ai terminé avec 2 garçons, 2 jumeaux. Donc.
Oh là là. Guillaume, vous m'entendez?
2 jumeaux.
Oui. On vous entend très mal Guillaume, il faut parler à côté de votre combiné.
Allô?
Oui, là ça va. Donc vous nous disiez 5 enfants, vous avez terminé avec 2 jumeaux.
C'est ça, 2 garçons, on a après 3 filles, on a eu 2 jumeaux en 2021.
D'accord. Et ça se passe bien?
Ça se passe très bien, très très bien. C'est, comme je disais, un peu le paradis en enfer, parce que c'est toujours un bonheur d'avoir des enfants. Même si des fois, je vous avouerai qu'il y a des moments qui sont un peu compliqués.
Vous les laissez aux grands-parents pendant les vacances, comme on fait quand on a un ou deux enfants? Les grands-parents disent, 5 c'est trop là.
Moi, je peux le dire, j'ai des grands-parents qui, alors, ceux, j'ai...
Guillaume, on vous entend trop mal. On n'arrive pas, Guillaume, malheureusement, on n'arrive pas à vous entendre. Il y a une liaison qui est trop mauvaise. Ils ont une téléphonie qui est trop mauvaise. Mais voilà, Guillaume faisait partie des.
C'est admirable.
C'est papa de 5 enfants. Ah ouais. Et tout le monde a l'air de dire c'est le paradis quand même. Bon, il y a quelques petits soucis, mais c'est le paradis. Moi, j'avoue, je suis assez admiratif.
Mais pour l'éducation, j'aime bien l'idée de l'éducation parce que les grands s'occupent des petits, etc. Donc ça forme des enfants responsables, en fait.
Enfin, d'accord. Enfin, quand les grands ont 7 ans, tu vois, par exemple.
Oui, mais même à 7 ans, on s'occupe de la petite sœur de 2 ans, etc. Je trouve, j'aime beaucoup cette idée-là.
C'est pas eux qui faire les courses. Hein.
Non, mais
et qui font les inscriptions. Rien que de penser aux inscriptions pendant la rentrée, j'ai une montée d'angoisse.
Le sujet, c'est toujours un sujet de temps. C'est-à-dire qu'en soi, évidemment, il faut que ce soit un choix. Le problème, l'amour, ça s'additionne, donc c'est pas un problème. Le problème, c'est évidemment le temps. Et le temps réparti dans un couple, évidemment, Fatima l'évoquait et avec raison. Et on en revient toujours, effectivement, au niveau de vie. Et j'y arriverai au salaire. Moi, je n'ai qu'une fille. Donc c'est, et puis, pour des raisons, y compris parce que j'ai rencontré la femme avec qui j'ai eu envie de faire un enfant. Et elle de même, alors qu'elle avait un enfant sur le tard. Et donc, on risquait pas d'en avoir un deuxième. Quand elle a eu un enfant, moi j'étais salarié, j'étais cadre dans une grosse association. Elle était commerçante, indépendante, elle était seule. Oui. Mais si vous voulez, quand il a fallu décider ce qu'on faisait, il n'y a pas eu de décision. En fait, c'est elle qui a dû arrêter parce que j'ai même pas pu me poser la question de m'arrêter, vu comment fonctionne le système aujourd'hui. Alors j'étais un peu conscientisé, mais cela dit, c'est quand même un vrai sujet parce que typiquement, et on en a eu qu'un, mais on en aura eu deux, trois, quatre, cinq. Le sujet a été le même, c'est que les ressources et la manière dont fonctionne l'économie fait que, au moment où on s'est posé la question, on avait malheureusement déjà la réponse, quoi.
Alors on vous a posé la question. Justement sur le compte Twitter d'Estelle Midi, famille nombreuse, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis?
C'est l'enfer pour 77% d'entre vous. Ça contraste avec Direct Studio où on a beaucoup de messages et de témoignages, comme nos auditeurs qui nous disent plutôt bien.
Qui ont l'air évidemment très
le paradis, non, mais bien oui.
Ouais, c'est entre les deux en fait.
Voilà.
Dans un instant, RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic et on parlera de ce couple qui a été arnaqué par son wedding planner. Il a disparu avant le mariage, ce qui évidemment est un peu embêtant. Surtout qu'il a disparu avec la compte et puis sans avoir rien fait. Donc on va essayer d'aider Alexandre et Alexandra. Ce sera dans un instant sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. Dans cette dernière partie, on vous aide. RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et Amélie, vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par un couple d'éditeurs qui vit une énorme galère.
Oui, je ris, mais ce n'est pas drôle.
Non, c'est pas rire.
Alexandre et Alexandra, ça ne s'invente pas. Un jeune couple de trentenaires heureux qui projette de se marier. Ils ont le droit, le 5 août prochain. Et pour être sûr de ne pas se louper, ils décident de faire appel à un wedding planner. Vous savez, un organisateur de mariage, clé en main, on n'a rien à faire, on paye et tout se passe bien. Presque. C'était en avril dernier. Ils se tournent vers Noce & Co. C'est une petite entreprise en Dordogne. C'est là qu'ils vivent. Le courant passe très bien avec le gérant qui leur promet de s'occuper de tout pour 10 000 euros. Donc, clé en main, faire part, réception, musique, traiteur, photographe. Ils se rencontrent à deux reprises. Oui, non, honnêtement, honnête, quoi. Un contrat sympa. Ils se rencontrent à deux reprises. Ils signent justement un contrat. Ils versent un premier acompte de 3 000 euros. Aïe, les semaines passent. Et passe, mais rien ne se passe. Le wedding planner n'organise rien. Et quand les clients demandent un remboursement des 3 000 euros d'acompte...
Il ne l'appelle pas pour dire « Tiens,
si,
on en est ?»
Il l'appelle pour leur dire, notamment, « Est-ce que vous avez bien réservé le château ?» Qu'on avait « Oui, j'ai bien réservé le château. » Alors le château rappelle en disant « Bah non, on n'a pas reçu les 2 000 euros. »« Ah non, mais vous avez bien réservé le château. » Donc au final, ils leur disent « Bon, écoutez, on va faire l'impasse sur le wedding planner. Laissons tomber. Rendez-nous nos 3 000 euros. Et puis on vous laisse tranquille à ce moment-là. » Plus de son, plus d'image, le téléphone ne répond plus, les locaux de l'entreprise n'existent plus et le couple, lui, est désespéré.
C'était censé être le plus beau jour de notre vie et ça commence à être le pire, quoi. On a quand même envisagé d'annuler le mariage parce qu'on n'a pas assez d'argent. Les 3000 euros en moins, c'est énorme, quoi, pour un mariage. C'est un stress permanent, on y pense tous les jours. Il n'y a pas un jour où ça devient limite tabou de parler de mariage dans la maison, quoi. Ma compagne pleure tous les soirs, je l'entends pleurer tous les soirs. Je suis impuissant devant ça. On est vraiment au bout. On peut vraiment plus, quoi.
Mais Amélie, comment est-ce qu'on peut aider Alexandre et Alexandra?
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié le contrat signé par le couple et on a évidemment enquêté sur l'entreprise. On a appelé notamment le greffe du tribunal de commerce pour savoir si l'entreprise, c'est une vraie entreprise, est-ce qu'elle existe, parce qu'il y a bien un numéro sirène sur le contrat. Cette entreprise, elle existe, mais pas sous le même nom. Alors, ce que nous dit le greffe du tribunal de commerce, c'est que soit le gérant est un filou, soit tout simplement il connaît mal la loi et il a oublié de faire enregistrer le nom commercial. Bon, bien ça, on ne le saura pas.
On va pencher pour la première option.
Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le greffe nous confirme qu'il n'y a aucune procédure contentieuse sur cette entreprise-là qui est enregistrée. Bon, c'est déjà une première bonne nouvelle. Ce que nous, on a fait, c'est évidemment essayer de contacter directement le gérant au téléphone et on a eu plus de chance.
On a eu plus de chance que le couple, puisque au premier coup de fil, il a répondu.
Ah.
Eh oui, il était très mal à l'aise au téléphone. Il s'est justifié en évoquant des problèmes personnels. Il n'a pas dit financier, il a dit plusieurs fois des problèmes personnels. Et il dit avoir mis sa société en stand-by. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais voilà.
C'est-à-dire qu'il ne fera pas le mariage.
Voilà, il ne fera pas le mariage, voilà. Donc il ne peut plus honorer le contrat. Face à notre insistance sur les 3000 euros d'acompte qui ont été versés, il s'est engagé verbalement auprès de nous, à rembourser notre couple d'auditeurs dans un délai de quelques semaines. On verra si c'est le cas.
Oui, on va quand même suivre le dossier. Est-ce qu'Alexandre et Alexandra vont pouvoir s'occuper un peu plus sereinement de leur mariage, là, parce que vous les avez aidés, Amélie?
On espère, c'est ce qu'on leur souhaite. Et effectivement, on va continuer d'insister auprès du gérant, s'il le faut, très régulièrement. Et vous nous connaissez, c'est notre dada de insister très régulièrement. Le couple, lui, prévoit de faire appel à la justice d'ici la fin du mois prochain, si jamais rien n'a bougé. Donc, on pourra vous tenir au courant. Mais en tout cas, en attendant, ils se débrouillent quand même très bien, parce que sans le wedding planner, ils ont déjà trouvé le lieu, le traiteur, le fleuriste, le DJ, le photographe, tout ça plus d'un an, un peu moins d'un an en avance. Et si tout se passe comme prévu, on espère évidemment nous aussi recevoir un petit faire-part.
Mais bien sûr, on prendra notre week-end et on ira au mariage d'Alexandre et Alexandra. Merci beaucoup Amélie Rosic, tous les jours dans Estelle Midi. RMC s'engage pour vous aux alentours de 14h30. Dans un instant, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Les immanquables, on reviendra sur ce jet de banane inadmissible hier lors du match entre la Tunisie et le Brésil. Il y aura la plainte du jour et puis les violences du jour. Ça se passe à Alençon dans l'Orne. À tout de suite sur RMC,
midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h38 sur RMC, c'est l'heure de vous donner toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on commence tout de suite, Thibaut, avec le débordement du jour.
Hier soir, Brésil et Tunisie s'affrontaient au Parc des Princes en match amical, rencontre marquée par un jet de banane sur le Brésilien Richarlison. Un geste d'une autre époque, dénonce Thiago Silva. Des bouteilles, des gobelets, des briquets ont également atterri sur la pelouse. En début de rencontre, c'est l'hymne brésilien qui a été sifflé, provoquant l'agacement des joueurs de la Seleção.
Et c'est assez dingue, parce que moi j'étais juste à côté du Parc des Princes hier avant le match et c'était hyper sympa. Il y avait les Tunisiens avec les Brésiliens, tout le monde se mélangeait. Franchement, atmosphère hyper festive, bon enfant, et enfin, il suffit d'un crétin pour faire pour gâcher ça, quoi.
Et qu'il y a du racisme dans toutes les communautés. Non, bon, le racisme n'est pas l'apanage des blancs, comme on dit, quoi. Voilà, c'est dans tout, et c'est vraiment dommage, parce que c'est vrai que c'était quand même c'est de l'équipe de Tunisie. Il y a beaucoup de gens d'origine tunisienne en France. C'était une chance absolue de voir jouer le Brésil.
Au stade,
mais c'est génial. Tu vois jouer le Brésil.
L'ambiance, elle était top.
L'équipe de ton pays d'origine qui joue face à l'équipe mythique du football mondial historique. Et il y a un connard qui gâche tout.
Ça gâche tout, Fatima.
La personne ciblée était noire, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Moi, je suis pas d'accord quand tu dis que ça n'a pas un symbole fort. C'est-à-dire que quand on jette une banane, bien évidemment que on charrie toute idéologie négrophobe. Donc, que ce soit l'impérialisme blanc ou l'impérialisme arabo-musulman, ce sont deux impérialismes qui ont produit de la négrophobie structurelle. Et donc, c'est pas juste un crétin. C'est une négrophobie qui est le produit d'une histoire.
C'est pas l'ensemble des supporters tunisiens. C'est un crétin qui a jeté une banane.
Je dis juste que quand tu dis que c'est un geste abstrait, que les uns et les autres se le jettent.
C'est abstrait.
Voilà. C'est quoi le mot que tu as utilisé juste? L'apanage des peuples qui ont mis en esclavage des personnes noires parce qu'elles étaient noires.
Les premiers noirs, puisque en 1850, un Africain sur quatre était l'esclave d'un autre Africain.
Non, mais après, est-ce que ce crétin a jeté une banane parce que c'est un objet, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui ont été jetés sur la pelouse, ou parce que c'est une banane avec l'idée de je vais jeter une banane? C'est ça, en fait.
On ne sait pas, mais
c'est ça, le problème, il est là.
On le sait. Par exemple, quand le journal Minute avait montré comment s'appelle Taubira en mettant elle a la banane et en la montrant comme un
c'est raciste.
C'est idéologique. Quand une élue du Rassemblement National, puisqu'on en parlait tout à l'heure, demandé à ses enfants de jeter une banane sur toujours la même Christiane Taubira.
Oui, mais c'est raciste, ça c'est sûr, c'est avéré, tu vois.
Effectivement, on peut pas le savoir. Maintenant, ne mettons pas sous le tapis la question d'une négrophobie qui existe aussi dans le monde arabe. Je suis bien placée pour le savoir étant marocaine. Et donc, c'est possible. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est fortement possible.
Faut punir sévèrement ce supporter, Pierre-Edouard.
Oui, enfin, je veux dire, d'abord, les actes. J'aime bien rappeler que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit.
Bah, bien sûr.
Déjà, on a et le problème. Face à un connard raciste, faut d'abord, évidemment, et condamner et aussi mépriser l'acte au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est un acte méprisable, il doit être méprisé. Et le supporter en question, il faut lui mettre un coup de pied aux fesses et le faire sortir. Je veux dire qu'à un moment, quand le jeu, j'allais dire presque les jeux du cirque, enfin, quand le jeu devient des jeux du cirque, révèle ce qu'il y a de pire chez certains d'entre nous, hélas, il faut effectivement les sortir. Parce que là encore, du coup, on crée des amalgames. Quand on n'est pas, moi je ne suis pas, je ne fréquente pas beaucoup les stades de foot, je suis entouré par les familles nombreuses, j'ai un certain nombre de supporters de moi, mais peu. C'est vrai que ça donne en plus une image du monde des supporters. Il ne faut jamais généraliser, pas plus chez les supporters que chez les autres, mais ça donne une image absolument déplorable. Ah bah et ça donne surtout tout sauf l'envie d'aller pour la première fois de sa vie regarder un match de foot. Moi qui n'y suis jamais allé ou d'emmener ses enfants, et j'ai peut-être tort, parce que, et évidemment, je suis assez, je pense, avec assez de recul pour ne pas assimiler tout ça, mais c'est vrai que finalement, quand on voit ça, et on se dit que quand même, il y a un combat effectivement mené, on parle aussi d'associations, on parle de tournants dans les stades, etc. Il y a quand même un vrai sujet sur le fait que là, on a le collectif qui n'est pas, pourtant, je suis plutôt un défenseur du collectif. Là, on a souvent les faces sombres du collectif, et il faut évidemment y mettre de l'ordre, quels que soient les motifs et les histoires qui sont aujourd'hui inacceptables. On en entend quand on parle du PSG, on parle de Marseille, les grands clubs évidemment, mais en même temps, on entend aussi parler de choses, y compris dans le foot amateur, hein, où on a des fois
l'idée hier c'était la fête au Parc des Princes et la fête elle est gâchée quoi.
Il y a un imbécile qui jette une banane, mais enfin il y en a des milliers qui sifflent l'hymne de l'autre équipe, l'hymne brésilien, donc ça aussi c'est une forme de xénophobie.
On va passer à la série du jour, elle est très attendue, Thibaut.
Pas par moi. Netflix confirme le lancement d'une série fictive inspirée de la vie de Rocco Siffredi, série de 7 épisodes baptisée Super Sex et dont le tournage a débuté à Rome. Elle se concentrera sur les origines de la star du X des années 90 et de sa relation à l'amour afin de comprendre ce qui l'a amené à tourner plus de 1500 films pour adultes dans sa carrière. L'acteur italien sera interprété par Alessandro Borghi, scénarisé par Francesca Manieri, qui se présente comme une militante féministe. La série sera disponible sur la plateforme en 2023.
Fatima, vous allez regarder ?
On est dans un moment où on est enfin en train d'assumer une critique de la pornographie, d'assumer que souvent l'industrie pornographique a été une industrie de trafic d'êtres humains, d'organisation de viols filmés,
d'asservissement,
sans parler de l'impact que ça a sur les personnes qui les ont vues, en plus qui les ont vues en étant très très jeunes. Donc autant la thématique m'est détestable, ce personnage de Rocco Siffredi, dont je me souviens d'ailleurs qu'il avait été jusqu'à commettre une agression sexuelle en direct sur un plateau, sur la chroniqueuse Cécile Ménibunis, qui n'avait pas été beaucoup soutenue à l'époque, on l'avait encore une fois, elle, traitée de coincée. Donc moi, qu'on documente des personnages et une thématique, il n'y a aucun problème avec ça. J'espère qu'on le documentera, non pas en essayant de lui tisser des lauriers, mais bien de parler de la violence de ce monde et des personnages qui l'ont fait vivre.
Alors a priori c'est une scénariste qui est militante féministe, donc ça devrait plutôt aller je vais pas ça dire dépend. Dans votre sens, mais vous voyez ce que je veux dire.
Le mouvement féministe c'est un mouvement intellectuel qui a plusieurs écoles, plusieurs productions théoriques. Nous ne sommes pas toutes d'accord, bien entendu, c'est comme tous les mouvements. Parfois il y a une certaine frange de militantes féministes qui performent la violence et qui disent que au final une femme forte, une vraie femme ne devrait pas se laisser intimider par des spectacles de violence misogyne, et ce n'est pas en tout cas ma position.
C'est vraiment le moment pour faire ça, Fred Hermel.
Sincèrement, ça m'intéresse pas. Je vais pas la regarder cette série, quoi. Il y a tellement de belles choses dans la vie. Franchement, je ne pense pas que Rocco Siffredi soit un héros des temps modernes.
Non, mais c'est pas un héros. Après, sur Netflix, il n'y a pas que des héros. Là, la série qui cartonne, c'est un serial killer. Donc,
la vie de Rocco Siffredi ne m'intéresse pas. Donc, de savoir d'où vient Rocco Siffredi, je m'en fiche, quoi. Donc, je ne vais pas regarder.
Pierre-Edouard, vous non plus ?
Alors, je ne pense pas. J'ai envie de vous dire, voilà, effectivement, je rejoins ce que dit Fatima sur le fait que la pornographie est en train de redevenir un sujet, et surtout un sujet, un sujet public, sur notamment l'accessibilité à la pornographie, qui est un vrai problème, sur le fait qu'effectivement l'accessibilité est un outil d'asservissement. Et alors là, beaucoup de militantes féministes, depuis de nombreuses années, ont défilé sur la thématique « Le corps des femmes n'est pas une marchandise », pour le coup, dans la pornographie. Alors là, Je pense que personne ne peut débattre sur le fait que le corps de la femme est ramené au rang de marchandise, et encore, des fois, on est même en dessous de la marchandise. Donc, évidemment, qu'il y a un vrai sujet, que personne ne fait ça par choix. Après, c'est aussi un sujet qui doit, ça va être intéressant de voir comment c'est traité, parce que, en même temps, je ne sais pas s'il a donné son accord, mais s'il a donné son accord, on a du mal à imaginer d'avoir affaire, du coup, à l'orientation que pourrait souhaiter Fatima. Et en même temps, effectivement, si on nous explique que c'est un artiste comme un autre qui fait vivre les corps, enfin, ça va être, je crains le pire. Alors, est-ce que ce sera juste nul? Est-ce que ce sera insupportable? Ou est-ce que ça va être finalement honnête et à charge?
C'est inspiré.
C'est inspiré. On verra bien.
La thématique quand même.
Et en plus, comment filmer la pornographie? Enfin, filmer de la pornographie sans en faire? Parce que évidemment, je vois bien le côté aussi voyeur qui va attirer tout le monde. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'était le bon moment? C'est toujours le bon moment de faire du buzz et de l'argent. Et je pense que Netflix, c'est quand même son principal sujet. La preuve, on en parle. Si c'était sur j'imagine qu'il y a des acteurs ou des actrices X assez obscurs qu'on ne connaît pas, ça leur viendrait pas à l'idée de Rocco Siffredi. Ce qu'il a réussi,
c'est Rocco Siffredi, ça parle à tout le monde.
Et tout le monde connaît Rocco Siffredi. Même des gens qui vraiment n'ont jamais vu de film porno, parce que, évidemment, tout le monde connaît les acteurs et les actrices porno, mais on n'en a jamais vu. C'est toujours le. Je connais.
Siffredi, moi, c'est le seul nom d'acteur porno que je connais.
Oui, masculin, effectivement, et qui n'a pas été stigmatisé comme peuvent l'avoir été des femmes.
Il a même fait. Il a même. On l'a même utilisé sur un ou deux films. D'ailleurs, classique, alors qu'ils n'ont pas
appris. Catherine Breillat, notamment, a fait un film avec.
Si ça a été un grand succès, mais.
Non, ça n'a pas été un succès. les violences du jour.
Des échauffourées ont éclaté hier soir dans le quartier de Persaigne à Alençon dans l'Orne. Plusieurs dizaines de voitures ont été incendiées après des jets de cocktails Molotov. Certains véhicules ont été utilisés comme barrage pour empêcher l'intervention des policiers. Les pompiers ont dû attendre l'arrivée des forces de l'ordre pour intervenir. Selon Ouest France, des interpellations plus tôt dans la journée dans une affaire de drogue seraient à l'origine de ces débordements.
Et c'est vrai, Fred Hermel, on parlait hier de l'insécurité qui montait dans beaucoup de villes de France, mais là, Alençon dans l'Orne, alors là, typiquement, c'est quand même la ville paisible. On s'attendait pas à avoir des émeutes déjà à Alençon, quoi.
Il n'y a plus de ville paisible en France, malheureusement. Et puis aussi la protection des délinquants par d'autres délinquants et la complicité de certains habitants. Voilà, c'est une réalité. Aujourd'hui, on laisse pas la police faire son travail. C'est malheureux à dire, mais les territoires perdus de la République, ce n'est pas qu'un livre.
Mais là, c'est vrai qu'on se demande, Pierre-Édouard Magnan, que faire, quoi? Parce qu'on a l'impression que toutes les villes s'embrasent. Donc, il y a un moment.
Quand vous avez de plus en plus de précarité, que vous excluez de plus en plus de monde, ceux qui, derrière, organisent des trafics ont de plus en plus de main-d'œuvre. Parce qu'il y a un moment, nécessité fait loi. Et donc, du coup, et en plus, vous parlez d'Alençon, effectivement, mais qui suis normand, alors pas tout à fait du même secteur, mais je connais un peu Alençon, on l'imagine pas. Au demeurant, si j'étais un trafiquant de drogue, je pense que j'aimerais des endroits un peu tranquilles, un peu machin. Et je suis pas sûr que j'irais créer un grand.
Non, mais c'est ce qu'ils font.
Je suis pas sûr que j'irais en fait m'installer comme trafiquant de drogue à Marseille. Ben, c'est pas un projet d'avenir que j'ai. Par contre, alors, Alençon, mais en plus, vous êtes sur une plaque, vous êtes au milieu, vous êtes sur tout l'ouest, etc. Vous êtes dans la campagne, vous êtes moins emmerdé. J'imagine que la brigade des stupes à Alençon, c'est modeste. Je fais
oui, à mon avis, c'est pas le 36, quoi.
Non, mais donc, du coup, il y a effectivement un lien. Mais derrière, c'est comment on revient dans les quartiers, comment on combat des délinquants et des trafiquants, qui sont d'ailleurs, souvent, on parle de drogue, on est même des criminels. Mais comment aussi on fait le travail? Et c'est pas pour dire que c'est à cause de la précarité qu'il y a des trafiquants de drogue. C'est pas ce que je voudrais dire. Par contre, ce que je veux dire, c'est que grâce à la précarité, grâce à l'exclusion économique, c'est quelques-uns qui, eux, font fortune dans le trafic de drogue, ont d'autant plus de gens à exploiter, accompagner leur trafic.
Il y a des gamins de 15 ans qui sont des.
Un gamin de 15 ans qui rentre là-dedans.
Qui gagne 300 euros par jour.
Donc, un gamin de 15 ans, il n'a rien à faire la nuit, je veux dire.
C'est la réalité.
Il y a une réalité en France, c'est que de la drogue, il y en a partout. Moi, ça fait des années que je vis en France. C'est rare que je ne sois pas dans une soirée où des personnes de toutes classes sociales confondues disent à un moment, tiens, je vais commander de la drogue, je vais appeler qui a le numéro d'un drogue.
Moi j'ai jamais vu ça.
En tout cas, on sait que la France statistiquement est l'un des pays où il y a le plus de consommateurs de drogue.
Ça c'est.
Et du coup, comme il n'y a pas d'économie qui est admise, enfin qui est légale, du coup forcément pour que toutes ces personnes à un moment aient le 06 d'un dealer, c'est qu'il y a une organisation illégale derrière et qui exploite effectivement, parce que même si tu dis que les jeunes ils vont avoir ce qu'on appelle de l'argent facile. N'oublions pas que ça reste des jeunes, qu'ils rentrent dans des réseaux qui sont dangereux, qui peuvent se retrouver dans ces échelles.
C'est l'horreur, bien sûr.
Et donc, ça que je pense que la seule porte sortie, c'est effectivement de légaliser, en fait.
Légaliser le cannabis, mais pas les autres drogues. Toi, tu auras toujours des soucis.
Tu vas légaliser le crack, alors?
Alors, cela dit, il est facile de cultiver du cannabis chez soi, fabriquer de la cocaïne ou de l'héroïne, ça demande déjà un petit peu plus de compétences. C'est-à-dire que vous réduisez quand même l'effet de masse, parce que faire de la cocaïne ou de l'héroïne, c'est pas tout à fait la partie prime. Cultiver du cannabis, il suffit, rappelez-vous Coluche, d'avoir un bac Riviera, mettez des graines dedans, puis vous attendez que ça pousse.
Mais vas-y, fais-nous un tuto aussi, bon, premier.
Bon. C'est un sketch sur YouTube, hein, vous le trouverez. Oui. Il a 40 ans, hein, donc même plus.
J'entends bien. La plainte du jour.
La plainte du jour, une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui à l'encontre d'Elisabeth Borne ainsi que deux de ses ministres, Christophe Béchu et Clément Beaune. Elle a été déposée par deux associations devant la Cour de justice de la République. Elle dénonce le laxisme de l'État concernant les 180 000 ralentisseurs jugés non conformes sur l'ensemble du territoire. Selon leur avocat, ces ralentisseurs engendrent des problématiques sonores, des fissures dans certaines maisons et un impact sur la consommation des véhicules en matière de CO2.
Oui, il y a quand même peu de chances qu'Elisabeth Borne aille en prison quand même.
Oui, mais on en parlait tout à l'heure. La judiciarisation de la France, ben c'est le modèle américain et ça arrive partout. Maintenant, chacun aujourd'hui va avoir un avocat pour n'importe quoi, va vouloir porter plainte.
C'est plus pour le symbole peut-être.
Mais ça fait beaucoup de symboles.
180 000 ralentisseurs qui sont hors normes en France, ça c'est
pas normal. Mais
il y a un ralentisseur en France qui fait 60 cm de haut. Est-ce que tu imagines? Il y a un moment où c'est
un ralentisseur.
Je suis d'accord.
Mais là,
déposer plainte contre la première ministre, en plus qui est là depuis quelques mois, enfin c'est un peu ridicule.
Non, je suis pas d'accord, parce que ce qui soulevait tout à l'heure, c'était plutôt des citoyennes et des citoyens qui règlent directement leurs différends auprès de la justice. Là, on est plutôt, je pense, dans l'action coup de poing, c'est-à-dire dans l'action d'interpellation. Moi-même, j'avais fait ça avec mon association. On avait porté plainte contre l'État qui ne rendait pas publique la liste des entreprises qui ne respectaient pas l'égalité salariale femmes-hommes.
C'est pas pareil,
et qui n'avaient pas, voilà. Donc, à mon avis, en tout cas, on est plus à visée symbolique pour faire parler. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça atterrit dans Estelle Midi, plutôt que dans ce qu'il appelait, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la banalisation d'avoir recours à la justice.
Oui, mais enfin là, c'est pas l'État qui va te réparer ton ralentisseur.
Bah, surtout qu'il est tellement, il est plus tellement le responsable des routes en plus.
Bah, c'est ça. Donc,
mais aujourd'hui, la justice est une arme, c'est un outil d'action revendicative pour beaucoup d'organisations.
Et médiatique.
Et en plus, parce que c'est entre paradoxalement, c'est aussi une arme justement d'organisation, une arme du pauvre, parce que si vous voulez faire autant de bruit avec une plainte, avec une mobilisation dans la rue, il faut être capable de mobiliser des milliers et des milliers de personnes, ce qui est de plus en plus compliqué dans la société dans laquelle on vit, alors que la plainte à l'État, effectivement, s'il portait plainte contre les conseils départementaux qui gèrent la majorité des routes dans ce pays,
on n'en parlerait sans doute pas ce matin.
Alors que contre Elisabeth Borne, oui, ce qui n'a fondamentalement aucun sens, la plainte va être classée d'ailleurs.
Exactement. Tiens, j'ai un petit cadeau pour vous. On a un petit cadeau pour vous, Pierre-Edouard Magnon, avec la petite nouvelle du jour.
À 17h, ce mercredi, le réseau BFM Région s'agrandit et lance sa 10e chaîne locale BFM Normandie. Une chaîne de proximité composée de 15 journalistes, accessible aux plus de 3 millions d'habitants de Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados, de la Manche et de l'Orne.
Et on va accueillir tout de suite Vincent Moscato, le super Moscato Show. Ah. C'est dans quelques secondes. Oh, salut Vincent.
Comment ça va?
Bien, et toi?
Bien.
Ah, c'est un gros programme aujourd'hui.
Alors là, gros programme. Un programme style Coupe du Monde.
Ah oui.
Bonjour, bien sûr. Le Grand Brésil est-il de retour? On va parler bien entendu du Grand Brésil, de Ronaldo, la Seleção. Est-ce que Neymar resterait une trace un peu? On en a parlé hier. Tu vois.
Ah, tu reviens au même sujet qu'hier.
Il y a deux buts du Roi Pelé.
Aujourd'hui, non. Est-ce que Kaká resterait une trace? C'est différent, le joueur brésilien.
Ah non, non.
Non. Mais si Ronaldo, non.
On continue.
Mais si Ronaldo, est-ce qu'il est encore capable de faire gagner leur sélection?
Non.
Ah, mais si,
enfin, peut-être plus pour Ronaldo quand même.
À Ronaldo?
Bah, le Portugal plus que l'Argentine.
Bah, moi je crois pas.
Moi je crois.
Ah, bah, justement, bah, on verra. C'est le débat démocratique.
Donc je vienne.
Les champions, est-ce déjà cuit pour l'OM qui a perdu 1-0 à la maison contre Francfort? Ils reçoivent le Sporting à huis clos, sans supporters, ça va être très difficile.
Bien joué,
supporters. Et puis après, débat société pour ou contre la semaine des deux jours.
Pour
oui, je me doute. Et la retraite à 30 ans, bien entendu.
Mais d'ailleurs, à la naissance, on est retraité.
J'en doute pas une seconde. Il y a trop de cols roulés dans le ministère. Voilà.
Oui.
La réponse était oui.
Oui,
c'est
dingue. On a des débats maintenant. Le monde de la société.
Le super Moscato Show, c'est dans un instant. Nous, on revient demain. Et c'est à midi 15h sur RMC, RMC Story. Salut.
RMC, 15h-18h, le Super Moscato Show.